Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Si l'actualité nous montre que les sites archéologiques peuvent être l'objet de convoitises, voire de destructions volontaires et planifiées, comme en Irak ou en Syrie, leur simple découverte, voire leur rénovation, peut aussi être l'objet d'enjeux politiques qui dépassent largement les fouilles elles-mêmes. C'est le cas à Jérusalem, comme nous le raconte l'envoyé spécial de RFI dans la ville trois fois sainte, Guilhem Delteil. Une manifestation escargot des conducteurs de bus à Téhéran, un balayeur ridiculisé sur Internet et qui se retrouve couvert d'or à Riyad, et une jeune femme qui se balade à vélo dans les rues de Bagdad pour lutter contre le sexisme. Les observateurs de France 24 sont riches en informations insolites ce mois-ci. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchantier au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
C'est une terre où se sont succédées bien des civilisations assyriens, babyloniens, macédoniens, perses, romains et même mongols. Et c'est une terre sacrée aux yeux des trois grandes religions monothéistes qui se sont, au cours de l'histoire, battues pour le contrôle des lieux saints. Cette terre, c'est évidemment celle qui se trouve aujourd'hui entre Israël, les territoires palestiniens, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Eric.
Envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem, une terre pleine d'histoire, disais-je. Cette terre attire donc une foule d'archéologues et les découvertes y sont fréquentes.
Oui, les chantiers de fouilles sont extrêmement nombreux et régulièrement les chercheurs se félicitent d'avoir découvert une pièce extraordinaire. En septembre, des archéologues de l'université de Caroline du Nord ont annoncé avoir trouvé une pièce de monnaie en or datant de l'an 56 de notre ère. Elle représente l'empereur romain Néron qui régnait alors sur la région. Elle a été découverte sur le Mont Sion, l'une des collines de la Jérusalem historique, vraisemblablement dans les décombres de riches maisons juives. Et si cette découverte est qualifiée d'exceptionnelle par le responsable des fouilles, c'est parce que, dit-il, l'image de Néron montre la présence de l'occupation romaine et fournit une date claire et tardive de l'occupation des résidences. Elle permet donc de comprendre un petit peu mieux l'histoire de Jérusalem. Le mois suivant, en octobre, c'est l'autorité israélienne des antiquités qui a présenté ce qu'elle aussi qualifiait de pièce extraordinaire. Un morceau de papyrus faisant partie, affirme-t-elle, des manuscrits de la morte. Il s'agit de textes vieux de plus de 2000 ans et extrêmement précieux pour les historiens. Parmi ces manuscrits, il y a plusieurs livres de l'Ancien Testament, antérieurs de plusieurs siècles aux versions jusque-là connues de ces textes. Ce papyrus-là n'était pas religieux, mais il est extrêmement précieux néanmoins, assurait Pnina Shor, la curatrice en chef de l'autorité israélienne des antiquités lors de la présentation à la presse.
Le papyrus que nous présentons aujourd'hui est un papyrus unique. Car la majorité des manuscrits de la Mer Morte, ou en fait tous les manuscrits de la Mer Morte sauf deux, datent de l'époque du Second Temple. Alors que celui-ci date non seulement de l'époque du Premier Temple, mais en plus, c'est le seul qui mentionne le nom de Jérusalem. C'est pour ça que c'est très, très excitant et unique.
Cette présentation, c'était fin octobre, Guilhem. Mais les prochains jours donneront encore l'occasion de parler de l'histoire de Jérusalem.
Oui, dans une dizaine de jours, pendant les célébrations qui entourent la fête juive de Hanouka, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va dévoiler l'une des plus anciennes rues de Jérusalem, une voie romaine qui date de plus de 2000 ans et qui reliait le bassin de Siloé, situé en contrebas de la vieille ville, et le mont du Temple, le lieu le plus saint du judaïsme.
Alors on le voit, l'histoire est très présente, mais la politique n'est jamais très loin non plus.
En effet, histoire et politique sont intimement liés, Eric. En présentant l'inauguration à venir de la voie romaine, la ministre de la Culture a une nouvelle fois dénoncé une résolution votée par l'UNESCO en octobre et qui, aux yeux d'Israël, nie les liens des Juifs avec ce qu'ils appellent le mont du Temple, mais qui est aussi pour les musulmans l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam. Ils peuvent continuer à mentir, nous continuerons avec la vérité historique, a déclaré Miri Regev au dernier conseil des ministres. Cette voie qui sera dévoilée très solennellement puisque c'est le premier ministre lui-même qui présente cette cérémonie est présentée par Miri Regev comme une rue où les Maccabées ont marché. Les Maccabées, c'est une famille juive qui a mené la lutte contre une dynastie grecque qui cherchait à helléniser les habitants de la région. Le gouvernement inscrit donc cette voie dans l'histoire juive plutôt que dans l'histoire romaine. Une lecture historique évidemment importante dans le cadre local, car elle souligne l'ancienneté et la continuité de la présence juive dans cette ville disputée. Yoni Mizrahi est le responsable d'Emek Shavé, une organisation qui se bat pour empêcher l'utilisation politique de l'archéologie dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Mais ce combat, il le reconnaît, est très difficile, voire impossible.
Nous sommes dans une zone de conflit. Il y a un conflit pour la terre. Israéliens et Palestiniens considèrent que cette terre est la leur. L'archéologie, c'est un travail sur la Terre. Vous faites une fouille ou une étude sur un endroit particulier. Vous trouvez quelque chose qui bien souvent est utilisé pour justifier une narration. Pas systématiquement, mais bien souvent. Quand vous faites des fouilles à Jérusalem, la question principale est de savoir pour qui vous la faites. Si finalement ça devient une zone qui appartient aux Israéliens, qui est contrôlée par les Israéliens, ou dont les Israéliens sont les principaux bénéficiaires, cela signifie quelque chose. Évidemment, si c'est le contraire, cela signifie autre chose. Vous pouvez aussi dire que les découvertes concernent vos droits historiques ici. Donc je pense que faire des fouilles qui ne soient pas politisées dans une zone de conflit, cela relève d'une mission très difficile, voire impossible.
Alors cette étude de l'histoire, elle est aussi, Guilhem, utilisée pour justifier la colonisation.
Oui, prenons le cas par exemple d'une colonie qui fait la une de l'actualité en ce moment, celle d'Amona, dont le démantèlement a été ordonné par la Cour suprême car elle a été construite sur des terres appartenant à des Palestiniens. Il y a 18 ans, quelques Juifs sont venus s'installer au sommet de cette colline située au nord de Ramallah. Leur nombre a augmenté et au début du mois, il y avait 40 familles qui habitaient là. La justification de cette présence, c'était leur attachement à la terre. Pour eux, les propriétaires palestiniens n'ont jamais entretenu cette terre, alors que les Juifs, disent-ils, avaient été présents à cet endroit dans l'Antiquité et avaient exploiter cette terre. Et la Tziv a été parmi les premiers à venir s'installer à Amona. Et il y a quelques semaines, il me faisait visiter la colline.
Nous sommes ici sur un pressoir. Plus qu'un pressoir, c'était une véritable usine à vin. C'est ici, précisément, qu'on apportait le raisin que les agriculteurs écrasaient. Juste ici, on mettait les raisins après qu'ils aient été écrasés. Puis on les faisait glisser là, entre les rochers, jusque à cet endroit. Et puis ils passaient ici où il y avait de l'eau qui permettait de nettoyer les raisins et de rendre le vin plus pur.
Et quand on lui demande de quand date ce pressoir, Eladziv se place immédiatement dans le cadre du conflit israélo-palestinien.
C'est une exploitation viticole. Les musulmans ne boivent pas de vin. Ils ne font pas de vin. Cela n'a rien à voir avec les musulmans. Vous pouvez comprendre ça? Ça, c'est la culture israélienne du vin. C'est important de voir qu'ici, il y avait des champs, du travail agricole qui date de milliers d'années. Notre lien à cette terre est prouvé ici sur ce terrain, sur la colline, partout.
Et le gouvernement aussi utilise cette ancienneté sur la terre pour justifier la présence israélienne en Cisjordanie. En 1967, après la guerre des six jours, qui a vu les Israéliens occuper l'ensemble des territoires palestiniens, jusque-là sous administration jordanienne ou égyptienne, nous sommes revenus dans les lieux où nos pères et nos mères marchaient, a déclaré dimanche dernier la ministre de la Culture. Et elle de citer Bethel, Elon Moré, Hébron et Jérusalem. Les deux premières sont des colonies en Cisjordanie, les deux secondes des villes disputées.
Alors Guilhem, il y a eu aussi un début de polémique après la présentation du papyrus que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, car ce papyrus qui porte, dit l'autorité israélienne des antiquités, la plus ancienne mention de Jérusalem a été présenté le jour du vote de cette résolution de l'UNESCO que j'évoquais il y a quelques instants, très critiquée ici en Israël. Les responsables de l'autorité assuraient qu'il s'agissait d'un pur hasard du calendrier, que font de l'histoire, pas de la politique. Mais dès le lendemain, certains historiens, israéliens comme étrangers, s'interrogeaient ouvertement sur l'authenticité de ce papyrus, ou en tout cas de la mention de Jérusalem qui y figure. En somme, on le voit bien, difficile ici de distinguer l'histoire de la politique.
Merci Guilhem Delteille, envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem, pour ce récit de la politisation des fouilles et découvertes archéologiques dans cette partie du monde si disputée.
Orient Hebdo sur RFI.
Les observateurs de France 24 étaient très affûtés ce mois-ci. On voit cela avec vous, Jamel Belayachi. Bonjour.
Bonjour Eric.
Direction Bagdad, en Irak, où une jeune artiste prend sa bicyclette pour se rendre au marché ou sur son lieu de travail. Et cela dure depuis plusieurs mois. C'est une action politique, Jamel.
Oui Eric, poids des traditions oblige, les femmes en Irak n'osent pas se déplacer à vélo de peur de subir les colibés des passants, voire des agressions. Marina Jaber veut lutter contre ce conservatisme social. Alors depuis quelques mois, elle se déplace à vélo dans les rues de Bagdad. Elle nous a raconté qu'elle se faisait souvent insulter. Parfois même, des jeunes sont allés jusqu'à la faire tomber de son vélo. Mais ça n'a pas découragé Marina, bien au contraire. Le 5 décembre dernier, la jeune fille a organisé une sortie entre filles dans les rues de Bagdad. Plusieurs femmes sont venues au rendez-vous dans l'espoir de faire avancer les mentalités.
Il faut la soutenir. Alors après Bagdad, Riyad, où un balayeur ridiculisé sur Internet a finalement été couvert d'or.
Tout est parti d'une mauvaise blague sur les réseaux sociaux. Un balayeur des rues de Riyad a été pris en photo à son insu devant une vitrine de bijoux de luxe. Publiée sur Twitter, l'image a suscité des moqueries. Un internaute a notamment écrit « Il ne mérite que de regarder les ordures ». Ces plaisanteries ont choqué d'autres internautes qui se sont mobilisés pour offrir au balayeur des cadeaux. Un homme d'affaires saoudien, Abdullah Al-Qahtani, a réussi à retrouver le balayeur et lui a offert un ensemble de bijoux en or. Dans une interview à CNN, l'homme d'affaires a indiqué que beaucoup d'autres voulaient aussi offrir de l'argent, des iPhones et des smartphones Samsung Galaxy. Une telle mobilisation est très rare en Arabie Saoudite, un pays où les travailleurs immigrés, notamment les domestiques, sont souvent victimes de mauvais traitements et ont des droits restreints.
Enfin, Jamel, un fait très inhabituel en Iran, une opération escargot des chauffeurs de bus à Téhéran.
C'est du jamais vu en Iran. Lundi 5 décembre, environ 400 chauffeurs de bus de Téhéran ont roulé à vitesse très réduite, toute lumière allumée. Ils protestaient contre la non-obtention d'une aide au logement que la compagnie de transport public s'était engagée à leur fournir. Une démarche courageuse alors que les précédentes manifestations avaient été violemment réprimées. Une grève de cette ampleur est très rare en Iran. Lors d'un précédent mouvement social, deux chauffeurs avaient écopé de 5 ans de prison et d'autres avaient été licenciés. Selon une décision de la municipalité de Téhéran, les conducteurs de bus doivent pouvoir accéder à un logement à prix modéré. La compagnie publique de bus bénéficie d'un crédit de 22 millions d'euros pour construire ces logements, mais n'a pas rempli ses obligations selon les chauffeurs grévistes.
Merci Jamel. Je rappelle que vous travaillez pour les observateurs de France 24 et que l'on peut vous retrouver et retrouver les informations sur le site observers.com.
Merci Eric.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, toujours en tête la question des colonies de peuplement et l'évacuation de l'avant-poste d'Amona, avant-poste proche de Ramallah.
C'est le sujet qui occupe la une de toute la presse en Israël ce week-end. Et Eric, plusieurs journaux font remarquer que le premier ministre israélien a voulu faire un geste, en quelque sorte, à l'égard des colons pour leur montrer qu'il n'était pas contre eux. Et ce geste, c'est d'ordonner la destruction de constructions palestiniennes illégales. Amona, on se retranche, titre plusieurs quotidiens, car pour les ténors de la droite, cet avant-poste construit légalement sur des terres palestiniennes est devenu un symbole, tout comme la mythologique forteresse de Masada. Les colons ont raté une bonne occasion de trouver une solution pacifique, écrit un commentateur. Ne jouez pas avec le feu, demande un chroniqueur de droite dans le quotidien Israël Hayom, proche du parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud. La droite est divisée sur la question et espère que tout se passera sans violence.
Et puis il est beaucoup question de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, en Syrie.
Il est beaucoup question aussi de la tragédie d'Alep et la question que l'on retrouve un peu partout, Eric, est la même. Comment expliquer le silence du monde autour de ces événements alors qu'Israël est constamment condamné pour ses activités dans les territoires occupés et pour le blocus de Gaza? Nombreuses prises de position dans ce sens. Le quotidien Haaretz consacre un éditorial à cette tragédie et propose qu'Israël accepte d'abriter des milliers de réfugiés syriens en raison de son histoire, c'est le moins que puisse faire l'État hébreu, souligne l'auteur de l'article.
La Syrie, il n'est quasiment question que de ça dans la presse arabe, Alexandre.
Les divergences commencent dans les titres. Il y a ceux qui parlent de la chute d'Alep, comme la presse du Golfe, la reprise d'Alep pour les journaux égyptiens et la libération d'Alep dans la presse syrienne. Cette dernière reprend largement la déclaration de victoire de Bachar el-Assad et accorde plusieurs articles aux festivités des habitants dans la ville libérée. Les journaux du Golfe couvrent surtout le drame humanitaire et le sort réservé aux réfugiés qui ont fui Alep. Des journaux égyptiens sont plus intéressés par la défaite des djihadistes et les conséquences que cela pourrait avoir. Mais les journaux arabes sont d'accord sur une chose, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont cédé face aux Russes à Alep. Ils spéculent déjà sur l'arrivée au pouvoir à Washington de Donald Trump, dont le secrétaire d'État est un ami de Moscou.
Autre sujet largement analysé et commenté dans la presse, Alexandre, l'attentat de dimanche dernier dans une église copte au Caire.
Les journaux soulignent d'abord l'exécution de Adel Habar, un djihadiste du Sinaï, condamné pour une attaque où une trentaine de militaires avaient été tués. Beaucoup d'analystes pensent que c'est la confirmation de la condamnation à mort de Habar qui a déclenché l'attentat contre la cathédrale. Et même si l'organisation État islamique a revendiqué l'attentat, la presse souligne les liens du kamikaze de l'Église avec les frères musulmans. Elle publie des aveux de complices du kamikaze qui déclarent que les donneurs d'ordre de l'attentat sont des membres de la confrérie réfugiée au Qatar. Des accusations qui ont provoqué des protestations du Qatar, mais aussi du Conseil de coopération du Golfe. Des journaux indiquent enfin qu'une partie des Coptes d'Égypte ne sont pas d'accord avec l'Église, trop conciliante à leurs yeux.
Art et politique, Guilhem Deltaï nous le disait dans son reportage tout à l'heure, c'est un mélange explosif, Michel Paul.
On avait parlé la semaine dernière de la statue en or de Netanyahou, érigée nuitamment sur la place de la mairie à Tel Aviv. Depuis, ses activités politico-artistiques se sont multipliées et font la joie, bien sûr, des divers médias. Dernier scandale en date, une affiche dans une exposition de l'école des beaux-arts de Jérusalem, Betzalel. Elle représente le premier ministre israélien face à un nœud coulant. D'autres affiches du même acabit sont apparues. Et quoi qu'il en soit, la police a ouvert une enquête pour incitation à la violence et le ministère de la Culture menace de revoir le budget de l'Académie Betzalel à la baisse.
Alexandre, la journée mondiale de la langue arabe de l'UNESCO est à l'honneur dans vos journaux.
Une célébration annuelle à l'UNESCO depuis 2012 et qui est sponsorisée par les riches monarchies pétrolières du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite. Le thème cette année était « Comment renforcer la langue arabe et la répandre mondialement ». Plusieurs intervenants ont souligné que l'arabe, langue du Coran, ne pouvait pas mourir, mais que cette langue pouvait être marginalisée si des mesures n'étaient pas prises. L'arabe est la langue religieuse d'1,5 milliard de musulmans et la langue officielle de près de 350 millions d'arabes. Toutefois, on note au fil des ans, et surtout depuis l'avènement des chaînes de télévision satellitaire et d'Internet, que les versions parlées de l'arabe s'éloignent les unes des autres, sans oublier la résurgence de langues locales comme le berbère ou le nubien. Il y a aussi le danger représenté par l'expansion de l'anglais chez les jeunes et la baisse de la capacité des étudiants à maîtriser toutes les complexités de la grammaire arabe, inchangée depuis plus d'un millénaire.
Et pour conclure, votre photo du jour, Michel ?
Eh bien, c'est la photo des assistantes parlementaires de la Knesset, tout en jupe. Le nouveau code vestimentaire du Parlement israélien a fait scandale quand les appariteurs ont mesuré la distance entre le genou et le tissu interdisant l'entrée du Parlement à celle qui était le plus court vêtue.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, François Porcheron, Éric Bataillon, vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.
L'épopée des musiques noires.